France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Bernard Stiegler qui publie deux livres aux éditions Galilée, De la misère symbolique et Philosopher par accident, des entretiens avec Kelly During. Autrement dit, la critique dont je parle, en tant qu'elle passe par la question du tragique, consiste d'abord à penser l'accident, le caractère originairement accidentel du destin humain, à penser et à philosopher l'accident, si j'ose dire, avec l'accident, et en cela par accident, faute de quoi il ne s'agirait encore que d'un discours réactif de plus. Bernard Stiegler, enfin vous avez un doctorat de philosophie, mais aussi une pratique d'informaticien. D'ailleurs, ce soir, vous êtes venu au studio avec votre ordinateur, mais vous l'avez sagement rangé dans votre sacoche. Et vous avez été directeur à l'Université Technologie de Compiègne d'un laboratoire de recherche spécialisé dans l'innovation technologique. C'est un laboratoire consacré aux technologies d'information et de communication, justement. Vous avez été directeur général adjoint de l'INA et actuellement vous dirigez l'IRCAM, ce qui vous laisse un peu de temps pour écrire des livres, plusieurs livres. Vous êtes venu d'ailleurs parler de l'un d'eux il n'y a pas très longtemps, c'était Passer à l'acte l'an dernier, un très beau livre qui racontait comment vous avez été amené à découvrir la philosophie. Mais il faudrait citer aussi ces livres que vous avez dédiés à l'évolution technique et à son articulation avec l'évolution sociale, en particulier la technique et le temps, qui est un triptyque. Alors, aujourd'hui, deux livres, Philosopher par accident, qui est un livre, je le disais, d'entretien avec Elie During, et d'emblée, vous confiez que, bien avant d'être un philosophe qui s'intéresse aux techniques, vous êtes intéressé à la technique par elle-même et pour elle-même.
Oui, j'ai effectivement depuis mon plus jeune âge, je crois que je peux le dire, été attiré par la technique. Alors il y a des circonstances tout à fait précises qui peuvent bien expliquer cela. Je suis né sur le plateau de Villebon-sur-Yvette, où était un des premiers émetteurs de la radio française. Un émetteur qui, d'ailleurs, je crois, a eu pendant un temps un des plus hauts pylônes du monde, sinon le plus haut pylône du monde, qui était un émetteur magnifique, qui avait été fabriqué peut-être au début des années 40, avec des générateurs qui l'entouraient, qui faisaient un bruit étrange, un bruit électrique, des bassins d'eau pour refroidir les machines en question, et à l'intérieur d'énormes lampes électriques, électroniques, qui faisaient des arcs d'ailleurs. C'était un bâtiment magnifique de l'architecture des années 30 ou 40.
Ça vous faisait rêver ça?
Où travaille mon père et qui me faisait complètement rêver, qui me fascinait aussi complètement.
Donc votre père qui était technicien?
Qui était technicien, qui d'abord a été électricien, puis qui est devenu électronicien, puis qui est finalement devenu ingénieur de la télévision française.
Et dans ce livre, Philosopher par accident, vous dites aussi que la place que vous avez accordée à la technique dans votre vie adulte et dans votre parcours de philosophe est directement lié à votre vision matérialiste de la chose politico-philosophique.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai un peu grandi, la question technique est devenue pour moi la question du travail. De, comme on disait dans les années 60, des moyens de production. Je me suis lentement politisé, comme beaucoup les jeunes de ma génération. J'ai vu la technique à partir de la pratique. À partir de l'instrument de travail, à partir de ce que j'appelle les pratiques instrumentales, les cultures instrumentales. Je suis devenu marxiste à cette époque-là, et j'ai été très sensible au discours, comprenez-moi bien, d'ailleurs je dis que je suis devenu marxiste, mais ça ne signifie pas que je lisais Marx, ça signifie que j'étais affilié à des mouvements politiques, dont en particulier à un moment donné le Parti communiste français. J'ai entendu parler à cette époque-là, où je n'étais pas du tout philosophe, parce qu'en fait j'ai été assez rapidement ce qu'on appelait un travailleur. J'ai été très marqué par ce que cette figure très connue en philosophie qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Donc ma première façon de considérer la technique, non pas simplement dans une espèce de fascination peut-être identificatoire à mon père tout simplement, mais de la considérer un peu réflexivement, ça a été d'y voir finalement une puissance de libération du travailleur. Ça a été la première période de ma vie qui s'est interrompue assez tôt, parce que dans le courant des années 70, principalement au moment où ce qu'on appelait l'union de la gauche à l'époque a commencé à battre de l'aile, je me suis éloigné de la vie politique, et puis finalement...
Ça lui fait des grosses bêtises.
Je suis passé à autre chose.
Ouais. Et donc, ça vous le racontez dans Passer à l'acte, et quand ces entretiens ont été faits avec Elie Düring, qui compose aujourd'hui ce volume intitulé Philosopher par accident, Passer à l'acte n'avait pas été publié. Donc dans ces entretiens, il n'est pas question encore de ce que vous avez révélé par la suite, c'est-à-dire de ce parcours philosophique commencé par accident en prison.
En prison, oui. Oui. Je suis passé à l'acte au sens des sociologues ou des psychiatres ou des psychanalystes en 78, dans un contexte peu de désespérance politique. Les années 70 sont des années difficiles, hein. Ce sont des années pour toute une partie de la jeunesse de l'époque, ce sont des années de grandes désillusions. Et c'était mon cas, j'ai beaucoup souffert de ça. Et bon, à un moment donné, comme d'autres l'ont fait dans d'autres voies, ça m'a conduit à ce qu'on appelle des déviances délinquantes. Ce qui m'a surtout conduit à 5 ans de solitude et de temps de réflexion qui sont passés finalement plutôt bien, même si c'est jamais facile, 5 ans de prison. Et là, tout a changé. J'ai reconsidéré les choses très en profondeur. Dans un premier temps, d'ailleurs, je suis vraiment entré pas dire en lévitation ou en état, je ne sais quel état, mais une époque s'est produite au sens phénoménologique du terme, c'est-à-dire une suspension de l'existence du monde objective qui a fait que toute mon expérience passée a retravaillé sur un mode absolument nouveau et que j'ai reconsidéré très très en profondeur à peu près tout. Et notamment cette question de la technique, qui n'était pas une question quand, pour moi quand je suis arrivé en prison, mais qui est devenue une question en prison en fait, mais par une voie tout à fait différente que la voie initiale qui faisait que j'avais un penchant effectivement pour les objets techniques, les questions techniques, etc. Bon. En prison, la chose s'est présentée différemment parce que j'en suis venu à réfléchir à ce qui me constituait dans mon existence, puisque finalement, quand vous êtes en prison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au sens, il n'y a plus de monde, il se passe rien, il se passe absolument rien en prison. Tous les jours, il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et néanmoins, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quand même cette voix intérieure, précisément, qui continue à se développer et qui enchaîne sur la mémoire, parce que vous gardez une mémoire.
Donc, pas la question de la technique, c'est d'abord la question de la mémoire qui s'est imposée à vous.
C'est d'abord la question de la mémoire qui m'a lentement, j'ai découvert en prison, j'ai fait de la philosophie, j'appelle ça parfois par accident, donc expérimental, sans le vouloir, je me suis retrouvé dans une situation objectivement philosophique qui correspond à une certaine figure de la situation philosophique qui est la suspension, l'époque, au sens où Searle ou les stoïciens emploient ce mot-là. La suspension de l'existence du monde. Donc tout à coup, tout est dubitable, tout est incertain, on ne sait plus très bien ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, puisqu'on ne vit plus que en soi-même, en quelque sorte. Alors, dans ce contexte-là, j'ai fait des expériences, d'abord de manière totalement sauvage, accidentel, donc, j'ai fait des expériences de pensée, ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et puis, j'ai eu la chance, d'une part, d'avoir un ami qui était philosophe qui s'appelait Gérard Granel, qui m'a écrit, qui m'a incité à lire, etc., à correspondre avec lui. Et puis, il y avait une bibliothèque à l'université, à la prison de Toulouse. Donc je me suis mis à lire et Granel m'a aussi fait parvenir des livres. Et là j'ai découvert tout à coup la philosophie, on va à proprement parler, dont j'avais cru longtemps, étant marxiste à l'origine, que la philosophie était une chose dépassée. Que, comme le disait Marx, le problème n'était plus d'interpréter le monde, mais de le transformer. Donc tout à coup je me suis aperçu que c'était peut-être un petit peu plus riche que ça la question et je me suis mis à lire Platon, à lire Aristote, à lire Kant, et bref, les grands classiques de la philosophie. Et là, rapidement, j'ai rencontré Platon et Husserl. Et j'ai rencontré avec Platon la question de l'anamnèse, sachant que, moi-même, je pratiquais des remémorations, puisque finalement, le seul matériau dont je disposais, c'était ma propre mémoire, donc je me remémorais ma vie, mais en la considérant tout à coup, tout à fait autrement. M'accompagner aussi dans ce chemin, par exemple, Proust, j'ai lu toute la Recherche du Temps Perdu plusieurs fois en prison, et c'était absolument fabuleux de lire la Recherche du Temps Perdu dans ces circonstances-là, parce que ce sont un peu les circonstances de Proust, dans certains cas, en tout cas, de ce qu'il raconte de son travail d'écrivain. Alors voilà, tout ça m'a conduit à accorder de plus en plus d'importance, d'une part, à la question de ce que Platon appelle l'anamnésis, c'est-à-dire la remémoration ou la reconnaissance, qui est, chez Platon, la base même de l'aletheia, de la vérité, de l'expérience du savoir. Et puis, à retrouver cette question aussi chez Husserl, à travers le problème qui est devenu très important par la suite dans mon travail, de ce que Husserl appelle les rétentions. Cela étant, ce qui m'a, si je puis dire, si je peux avoir l'outrecuidance de dire, ce qui m'a sauvé de Platon et de Husserl, car la philosophie c'est dangereux, rien n'est pire que devenir husserlien, platonicien, déridien, heideggerien ou marxien. Ce qui est important, quand on fait de la philosophie, pour moi en tout cas, c'est finalement de poursuivre l'individuation philosophique, c'est-à-dire de sortir des grands textes philosophiques pour aller explorer ailleurs.
Et de nous parler notamment d'aujourd'hui.
Et de parler d'aujourd'hui. Et cela étant donc ce qui m'a sauvé, si je puis dire, d'une lecture platonicienne de Platon ou husserlienne de Husserl, ce qui n'est pas intéressant, si ce n'est pour faire des thèses, etc., c'est la question de ce que j'appelle l'hypomnèse, c'est-à-dire la mémoire artificielle. Le livre, l'écriture, finalement ce qui m'a sauvé de la folie en prison, c'est de pouvoir lire, c'est-à-dire de pouvoir m'altérer dans la lecture des livres, et de pouvoir laisser la trace de cette altération sur des feuilles de papier, qui à cette époque-là ne donnaient pas du tout des livres. À cette époque-là, j'étais absolument pas du tout en mesure d'écrire des livres. J'étais beaucoup trop écorché vif pour écrire des livres. J'écrivais néanmoins des textes qui continuent aujourd'hui complètement à télécommander tout ce que j'écris aujourd'hui, que je ne fais en fait aujourd'hui que traduire, bon, à partir d'une existence qui est redevenue plus normale.
Mmh. Les livres, alors, c'est un excellent moyen d'évasion.
C'est un moyen de constitution de soi, au sens où Foucault a publié un très beau texte qui s'appelle L'écriture de soi, où il parle de ce qu'il appelle, il emploie pratiquement le même mot que moi, les hypomnémata, c'est-à-dire les traces que les anachorètes, les stoïciens, etc., produisent d'eux-mêmes, sous la forme soit de lettres, d'échanges épistolaires, soit de lettres qu'ils s'envoient à eux-mêmes, c'est-à-dire de traces qu'ils laissent d'eux-mêmes, qui sont des disciplines de vie. C'est ce que j'appelle moi-même ma mélété, c'est le nom de la discipline en grec. Et ces pratiques hypomnésiques, ce sont des pratiques techniques. Donc, à travers la question de constituer un sain rapport à ma propre mémoire dans cette situation où j'étais en quelque sorte enfermé en moi-même, privé d'altérité, et où la question cruciale c'était d'arriver à m'altérer et à me désaltérer, si je puis dire, c'est-à-dire à vivre. Bon. Les supports hypomnésiques ont fait que ma mémoire n'est pas devenue une espèce de dispositif obsessionnel répétitif conduisant à la folie, ce qui peut arriver en prison, ce qui arrive souvent en prison, mais c'est devenu un matériau de travail que j'ai pu travailler comme une matière première, le soi, que j'ai pu sculpter, si on peut dire, avec ces techniques de soi que sont les mots techniques de l'écriture et de la lecture. Et c'est ce qui m'a conduit à la question, ce qui m'a reconduit à la question de la technique.
Oui. Donc on est parti de la technique, on y revient par le détour de la mémoire, mais ce que vous montrez dans votre livre, Bernard Stiegler, c'est qu'il y a une articulation entre la technique et la mémoire. D'ailleurs, votre ordinateur, là, dans votre sacoche, est peut-être là pour en témoigner.
Oui, je pense que la mémoire humaine est essentiellement artificielle. Que ce qui fait que l'être vivant humain est humain, c'est-à-dire que, comme on dirait avec Heidegger, il existe, ou comme on pourrait le dire avec Freud ou Lacan, il symbolise. Comme je le dis moi maintenant depuis quelque temps, il s'exclame, c'est-à-dire qu'il produit une clameur, qu'il s'extériorise, qu'il manifeste une singularité. Eh bien, c'est d'abord le fait qu'il extériorise sa mémoire nativement, originairement. Ce qui fait que l'on peut situer l'hominisation dans l'histoire de la vie, c'est le moment où, du vivant, pour continuer à vivre, est obligé de se prolonger organiquement, comme disait Kapp, que Engels aussi commande dans sa dialectique de la nature. Donc là, j'ai retrouvé des problématiques, finalement, du marxisme, d'ailleurs. puisque les marxistes ont été les premiers à poser ces questions sur le plan philosophique. Le vivant humain, c'est la vie qui se poursuit par d'autres moyens que la vie. En l'occurrence, par des artefacts, qui sont des êtres organiques, mais en même temps inorganiques. Organiques au sens où ils sont organisés. Un silex taillé, c'est organisé. C'est un organe, d'ailleurs. Organe, ça veut dire instrument, en grec. Et en même temps, c'est inorganique, ça se reproduit pas tout seul. Il faut l'homme pour que ça se reproduise. Et donc là, la vie se met à former un système avec ce que j'appelle non pas la mort, mais le mort. L'outil taillé, c'est du mort. Mais c'est de la trace de vie. Si vous êtes archéologue, par exemple, que vous trouvez un silex taillé, vous regardez immédiatement dans ce silex la trace de gestes qui ont taillé le silex. Et bien ça, c'est aussi ce que fait l'héritier du tailleur de silex, qui récupère le silex, et en récupérant le silex, il récupère l'expérience du tailleur de silex. Or, ce qui est crucial dans cette affaire, c'est que ça signifie que tout à coup, la vie peut sommer, accumuler, transmettre l'expérience individuelle de ceux qui ont vécu et qui ont disparu. Chez les animaux, c'est impossible. Dans les plantes, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la naissance de la culture. Et en réalité, c'est l'apparition d'une troisième mémoire. Pourquoi troisième ? Parce que la vie, en tout cas sexuée, est définie par, depuis August Weismann, par deux types de mémoire. La mémoire qu'on appelle germinale, ou le plasma germinatif, qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le génome, l'ADN, et d'autre part, la mémoire somatique, qu'on appelle aussi parfois la mémoire nerveuse ou épigénétique, qui est la mémoire de chaque individu. Un escargot de mer a une mémoire. Il a que 50 neurones, mais ces 50 neurones, vous pouvez lui faire acquérir des comportements, parce que il peut s'adapter à son milieu. Les individus vivants ont, quand ils ont un système nerveux, parce qu'il y a des individus vivants qui n'ont pas de système nerveux, mais quand ils ont un système nerveux, ont une capacité d'adaptation au milieu individuelle. C'est ce qui fait qu'on peut dresser aussi les animaux. Mais cette adaptation au milieu des animaux dotés de système nerveux ne se transmet pas aux descendants. Quand l'animal meurt, cette mémoire individuelle est perdue à jamais. C'est pourquoi Darwin peut dire à Lamarck, contre Lamarck, il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Alors ça c'est vrai jusqu'à l'homme. Mais à partir de l'homme, ça n'est plus vrai. À partir de l'homme, il y a non pas une hérédité des caractères génétiquement acquis, bien évidemment, encore que maintenant, oui, avec les manipulations génétiques, ça devient le cas. Mais en tout cas, il y a une hérédité des expériences acquises par les individus qui peuvent se transmettre à leurs descendants. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'accumulation de la culture, qui est une forme de mémoire, qui est de la mémoire.
Il y a beaucoup d'autres points, évidemment, dans Philosophie par accident, Bernard Stiegler, ce livre d'entretien avec Elie Düring que vous publiez chez Galilée. Mais je voudrais juste, parce qu'à la radio ça va très vite, et puis qu'il y a un autre livre dont il faut aussi qu'on dise quelques mots, je voudrais simplement que vous disiez ce qu'il en est de cette référence au tragique qui arrive à la fin de ces entretiens, et qui peut-être est sous-tendu par cette notion d'accident.
Oui. Alors, pour préciser cette question du tragique, qui est une question très complexe, là, pour le coup, je dois reprendre ce que je viens de dire, mais tout à coup, en lui donnant en traversant le temps très, très vite, pour dire que pendant, finalement, plusieurs millions d'années, car l'hominisation a commencé il y a environ 3 millions d'années, la mémoire artificielle de l'humain s'est transformée, d'abord très lentement. Pour passer au biface, il faut 1 million d'années. Donc la transformation des objets techniques est extrêmement lente. Et puis elle s'accélère, et on arrive finalement au Magdalénien et à Lascaux, et on voit apparaître les premières formes d'art. Et puis, 15 000 ans passent, on arrive au Néolithique, et au Néolithique apparaissent les premières mnémotechniques à proprement parler, l'écriture, les systèmes de comptage, etc. Tout ce qui va donner naissance à ce que nous appelons les civilisations. L'accumulation de richesses en excédent qui permet de développer des pratiques somptuaires, de développer un artisanat, un art, etc., des religions, de grandes religions. Et puis, 10 000 ans s'écoulent et ça amène jusqu'à nous. Au cours de ces 10 000 ans, qu'est-ce qui se constitue? Beaucoup de choses, plusieurs civilisations, mais en particulier une civilisation qu'on appelle l'Occident, qui est notre civilisation. Quand je dis la nôtre, je parle du monde entier aujourd'hui, car maintenant le monde est entièrement, non pas occidental, mais a entièrement intégré, intériorisé, qu'on soit en Chine, en Afrique, en Amérique latine ou en Australie, on a finalement adopté l'alphabet chrétien, par exemple. Vous parliez de mon ordinateur tout à l'heure. Mon ordinateur, il communique par Internet avec des ordinateurs chinois. Et ces ordinateurs chinois, ils sont calés sur le calendrier chrétien. Ça coïncide avec la fin de ce que j'appelle, dans mon livre, de la misère symbolique, le processus d'individuation psychique et collective occidentale. Je veux dire par là que, il y a 2500 ans environ, par là, développement d'une mnémotechnique particulière qui est l'alphabet, est née une civilisation qu'on appelle l'Occident. Une civilisation qui a des sources multiples et qui mériterait évidemment beaucoup de précision pour ne pas le définir hâtivement et sommairement, mais là je suis obligé de le faire. Disons que c'est quand même la civilisation du livre. Que ce livre soit le livre de la Bible, des Hébreux, ou que ce soit le livre que condamne Platon tout en l'écrivant. Et cette civilisation du livre qui va se synthétiser à travers la figure de saint Paul, le grec qui parle le juif, qui parle le livre du juif, et qui finalement fonde aussi le christianisme à travers ça, ça va être une civilisation qui va se développer pendant 2500 ans, qui va être... une civilisation qui va devenir rapidement impériale, avec Alexandre, avec les Romains, avec ensuite l'impérialisme et le colonialisme de l'Europe occidentale, et qui va finalement pénétrer le monde entier, et qui aujourd'hui, à mon avis, est en train de s'achever, et de se transformer en quelque chose de tout à fait autre. Alors, pourquoi parlais-je d'achèvement de ce processus et de sa transformation en quelque chose de tout à fait autre? Eh bien parce que je crois que depuis le début du 19e siècle, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, mais surtout au cours du 20e siècle, et en particulier à la fin du 20e siècle, donc tout récemment, une grande mutation mnémotechnologique s'est produite. La civilisation du livre, ou pour parler comme Maurice Blanchot, l'époque du livre... Ils mettent un grand L à ce mot. Blanchot disait déjà dans l'entretien infini qu'elle était terminée, cette époque. Aura été une époque de séparation entre le monde de la production, qui est le monde des vilains chez Nietzsche, des manants, de la roture, on dit au XVIIIe siècle, etc. Des artisans, dit chez Platon, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne sont pas dans le monde du symbolique. Et puis d'autre part, précisément les clercs, c'est-à-dire le clergé en tant que tel, le juridique, tous ceux qui produisent du symbolique et qui sont du côté du pouvoir, et d'un pouvoir qui est essentiellement hanté, A-N-T-E, appuyé, constitué par et sur et dans la référence à quelque chose qu'on peut appeler le transcendant, le transcendantal, le sacré, mais en tout cas, qui est de l'ordre de l'incalculable, de l'incommensurable, de la singularité absolue, et qui fonde une économie que Bataille a appelée somptuaire aussi. Pendant toute la durée de constitution et de conquête du monde par l'Occident, le processus, entre guillemets, civilisateur, parce que je dis entre guillemets, bien évidemment, parce qu'il n'est pas seulement civilisateur, il est aussi abominablement destructeur et ravageur. Néanmoins, ce processus qu'on appelle la civilisation occidentale se constitue dans cette différence absolue qui est faite entre un monde des clercs et un monde, disons, des producteurs, du travail, des entrepreneurs, des vilains, des ouvriers, des techniciens. Au XIXe siècle, les choses commencent à changer. Parce que il y a une mutation du rapport entre science et technique qui s'opère par le développement de la grande industrie, du machinisme industriel, le développement de la machine de Watt, la machine à vapeur, etc. etc. Et puis, au XXe siècle, Le monde de la mnémotechnique, c'est-à-dire des échanges symboliques, tout à coup, est capté par le monde de la technique, par le monde de la technique industrielle. Les machines industrielles deviennent mnémotechniques, ça devient des machines computationnelles, informationnelles, etc. Un système médiatique se développe également très important, qui repose sur des machines, des caméras, des appareils photo, des émetteurs, l'émetteur dont je parlais tout à l'heure, où mon père travaillait quand j'étais petit. Et tout cela se met à développer un système fonctionnel entièrement intégré, où ce qui est devenu la production doit s'intégrer avec ce qui est devenu la consommation. Et cette intégration a pour but de faire en sorte que le développement industriel ne cesse de se poursuivre. Mais cette mutation a un prix considérable que nous sommes en train de payer et qui consiste dans le développement de ce que j'appelle une véritable misère symbolique. À savoir que le symbolique est devenu, à ce moment-là, principalement un instrument pour organiser l'articulation entre production et consommation. Il a donc dû devenir essentiellement un domaine de la calculabilité. Il a donc dû évacuer toute incalculabilité. Cette incalculabilité pouvant s'appeler Dieu ou le transcendantal, mais elle peut aussi s'appeler la singularité, c'est-à-dire, et là je prends le langage de Freud, la libido. Alors, je développe dans la misère symbolique une thèse qui est que ce que j'appelle le capitalisme hyper-industriel, et je m'oppose foncièrement à Alain Touraine et à tout ce qu'on a appelé la société post-industrielle.
Le sous-titre du livre, c'est l'époque hyper-industrielle.
Voilà, et je pense que depuis 30 ans en France, à cause d'un certain courant sociologique, post-68 ans d'ailleurs, on a vécu dans un leurre, mais pas simplement en France, aux États-Unis aussi, qui racontait que nous serions entrés dans une société post-industrielle. Moi, je ne crois pas du tout que nous soyons dans une société post-industrielle. Je pense que nous sommes dans une société hyper-industrielle, où tout est devenu industriel. Absolument n'importe quelle séquence de comportement existentiel est devenue descriptible, formalisable et calculable par des machines cybernétiques. C'est ce que Gilles Deleuze appelle les sociétés de contrôle.
Donc, le narcissisme en prend un coup.
Ben, le narcissisme est... Et ruiné littéralement et détruit parce que ce qui fait que le narcissisme fonctionne, et chez moi le narcissisme c'est pas une pathologie, c'est d'abord comme chez Freud le cœur même de la vie libidinale individuelle et collective. Le narcissisme c'est ce qui suppose que je projette en me regardant dans une glace une altérité de moi-même qui est ma singularité, qui reste à moi-même un mystère. Et que cette singularité qui reste à moi-même un mystère, eh bien, j'essaye finalement de la constituer, de la faire exister et consister dans mon rapport aux autres, dans lesquels je projette de la singularité. Donc, si je tombe amoureux de quelqu'un, par exemple, c'est parce que je tombe amoureux, évidemment, de sa singularité. Je ne peux pas tomber amoureux d'autre chose que d'une singularité. Ça peut être un pur fantasme, ça peut s'évaporer en quelques heures, ça s'appelle dans ce cas-là une amourette, mais il y aura eu pendant quelques heures, le sentiment d'un truc absolument singulier et incomparable à toute autre expérience. Tout désir fonctionne sur cette base-là. Or, le grand capitalisme hyper-industriel contemporain, pour pouvoir imposer ses modèles de développement, est obligé de standardiser de plus en plus les comportements des individus et donc de capter leur libido.
Et de produire de la frustration.
Et de produire de la frustration parce que la libido captée ne peut que décevoir finalement le désir libidinal qui est capté. Pour une raison très facile à comprendre, qui est que pour qu'on puisse capter cette libido, il ne s'agit pas de capter la libido d'un individu, mais de capter la libido de masse d'individus. Il faut donc grégariser ces libidos, si je puis dire, singulières, pour les rapporter à un seul type de comportement libidinal. Et pour les grégariser, il faut les catégoriser par des processus de conditionnement qui sont aujourd'hui très bien décrits par toutes sortes de gens, notamment Jeremy Rifkin aux États-Unis, qui a bien décrit ces choses-là, mais beaucoup d'autres, Vance Packard, dès les années 50, avait décrit ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec les technologies numériques, avec les moteurs de recherche, avec ce qu'on appelle le profilage utilisateur, etc., ces techniques de conditionnement et de captation de la libido sont devenues extraordinairement efficaces. Et donc, je crois qu'elles produisent un état de misère, et un état de misère qui est un état très dangereux, parce que un individu qui est symboliquement misérable, c'est un individu qui est incontrôlable, qui devient incontrôlable, pour une raison très simple, c'est que la misère symbolique, ça devient la destruction et l'effondrement du surmoi. À partir du moment où il n'y a plus de surmoi, on peut s'attendre à tout. Que des gamins fassent absolument n'importe quoi, qui tuent les copains à eux, comme Gus Van Sant le montre dans son film Elephant, que des adultes commettent des actes absolument abominables sur leurs propres enfants, ou que des terroristes fassent n'importe quoi. Etc. Tout ça, évidemment, est un peu infernal. Donc, dans ce livre, j'essaye de montrer que le développement hyper-industriel du capitalisme doit faire l'objet d'une critique. D'une critique radicale, une critique au sens kantien, qui n'est pas du tout une dénonciation. Moi, je ne suis pas du tout contre le développement industriel. Je dis simplement que le modèle actuel du développement industriel est devenu écologiquement, mais je parle d'une écologie du mental et du libidinal, profondément destructeur, et que donc il n'est plus viable. Qu'il s'autodétruit. Comme dirait Jacques Derrida, il est auto-immunitaire. Il se tue lui-même, en quelque sorte. Il se détruit lui-même. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'en appelle à un retour vers les questions tragiques. Pourquoi tragique? Alors, d'abord, qu'est-ce que le tragique? On a souvent, un petit peu comme avec le narcissique d'ailleurs, un usage très approximatif du mot tragique dans la langue quotidienne. On dit qu'est tragique une situation, souvent on confond tragique et dramatique d'ailleurs, et on dit qu'est tragique quelque chose de très triste, de très catastrophique. Mais le tragique, c'est pas essentiellement ça. Le tragique, c'est d'abord ce qui est dans une relation constitutive à sa propre mortalité, à sa propre finitude dans ce sens-là. Je crois que les Grecs pré-socratiques, les Grecs d'avant Platon, ont développé une pensée de la techné, qui était beaucoup plus adaptée que la pensée qui s'est développée ensuite à partir de Platon, puis à travers le christianisme et le monothéisme, aux questions techniques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça que, c'est ce que Nietzsche a parfaitement compris. C'est pour ça que Nietzsche, tout en dénonçant le devenir grégaire des sociétés, parce que ce que je dis là et ce que je décris, Nietzsche l'avait déjà annoncé il y a 120 ans, Nietzsche disait, il faut en revenir à une pensée de l'époque tragique, c'est-à-dire d'avant le monothéisme. Non pas pour faire un retour d'ailleurs au pré-socratique, mais pour revisiter toute l'histoire du monothéisme en réactivant les grandes questions tragiques, parce que nous sommes reconduits à ces questions tragiques. Pour moi, les questions tragiques sont essentiellement liées précisément à la question de la technique. Il y a un mythe raconté par Hésiode, puis par Échille, puis par Protagoras, qui est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, qui est le mythe tragique par excellence, à savoir que le mortel est celui qui est prothétique, c'est-à-dire doté d'un attribut toujours artificiel, et dans lequel il ne trouve jamais satisfaction qu'en produisant de nouveaux attributs, et ça décrit précisément ce circuit de la prothéticité.
De Bernard Stiegler aux éditions Galilée, Philosophé par accident, des entretiens avec Élie Düring et De la misère symbolique, c'est le premier volume d'une série. Celui-ci est sous-titré L'époque hyper-industrielle et ces deux livres, c'est chez Galilée.
C'est chez Galilée, le deuxième tome qui paraîtra l'an prochain aura pour titre La catastrophe du sensible.